Bonjour à tous, je m'appelle Cassandra et je souhaite vous aider à trouver des solutions en matière d'orientation. Et oui, ne vous est-il jamais arrivé de douter de vos orientations professionnelles? De vous lever le matin sans passion et de vous sentir piégé? Hashtag orientation professionnelle éclairée, c'est le podcast qui va vous faire partager le quotidien de personnes au parcours différent avec des récits singuliers, passionnants et ouverts à tous. Alors tendez l'oreille, ici c'est Hope. Aujourd'hui, nous accueillons Noémie. Elle est actuellement étudiante en psychologie, mais elle a déjà donné dans les études. Après avoir écourté sa formation de mise à niveau en art appliqué, elle a décidé de s'orienter vers une licence lettres et arts, puis de se former en licence de psycho. Ces deux licences la mèneront très certainement à exercer le métier d'art-thérapeute. Alors, si tu veux en savoir plus, ne quitte pas, car elle va tout expliquer. Alors bonjour Noémie, bienvenue dans notre podcast. J'aimerais du coup te demander si tu pouvais te présenter, me dire l'âge que tu as et la formation à laquelle tu as participé, ou les formations.
Toutes les formations dans mon cas. Je m'appelle Noémie, j'ai 22 ans. Je fais en mode chronologique.
Oui, commence on va dire du lycée.
Ouais, bon, j'ai fait un bac L. Mm-hmm. J'ai fait ensuite une MANA publique. À Saint-Etienne, mais j'ai pas fini, je me suis arrêtée. Je crois que j'ai fait même pas la moitié d'une année, au final j'ai dû faire 4 mois, quelque chose comme ça. La rentrée d'après, du coup, j'ai recommencé une licence de lettres et arts, à Saint-Etienne toujours. Et donc j'ai fini ma licence, et là je suis en licence de psychologie, donc je recommence. Et je risque de même pas finir cette licence. Enfin, bon.
T'es en quelle année de licence là, en psycho?
En psycho première.
T'es en première année. Ah, t'es en première année, tu recommences vraiment depuis le début. Ok. Donc, tu nous as dit que tu avais fait un bac L. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les spécificités de ce bac-là, en quoi ça consistait, notamment au niveau des cours,
Alors, je sais que c'est plus du tout le modèle qui est en place maintenant. Depuis la dernière rentrée, ça a changé. Mais donc, le bac L, à l'époque, c'était du coup des matières plutôt orientée sur la littérature, et moi j'avais pris la spécificité art, donc voilà, principalement de littérature et de l'art plastique. J'avais 8 heures par semaine d'art parce que j'avais pris du coup la spécialité et l'option art, et sinon c'était matière type voilà, on avait de la littérature, de la philo, l'histoire.
Voilà. Oui, de cours somme toute banal pour une filière générale. Voilà. Donc après ça, tu t'es orientée vers la MANA. Mm-hmm. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
Donc MANA publique, je pense que c'est important de le préciser parce que ça veut dire que c'était pris sur dossier, donc c'est très sélectif comme formation. C'est difficile pour y rentrer, surtout celle de Saint-Etienne qui est particulièrement... Enfin, c'est la meilleure de la région, du coup c'est un peu plus difficile de rentrer. Donc ça demandait vraiment d'avoir un dossier scolaire en béton, et c'est d'où l'avantage d'avoir fait spécialité art au lycée, c'est que du coup ça m'a amené du coup plus de notes, plus d'ouverture par rapport à mon dossier. Et donc c'est une formation donc mise à niveau en art appliqué, où on va principalement travailler du coup sur le design d'objets, l'espace, la mode et le graphisme. Mmh. C'est les 4 matières principales, et voilà, c'est un an très intense de prépa en fait, hein. C'est comme prépa sciences, prépa maths, prépa lettres, c'est, voilà, c'est très intense pendant un an, et on apprend beaucoup beaucoup de choses qui nous permettront après de devenir des professeurs. Des BTS, on ne sera pas à la MANA, mais voilà, c'est une année intense pour nous remettre à les bases pour pouvoir faire d'autres métiers.
Ouais, pour avoir l'équivalence bac ST2A, donc ouais, voilà. Tu nous as dit que tu étais restée seulement 4 mois dans la formation.
Oui, ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé du coup?
Alors moi ça faisait depuis la 6e que je voulais faire la MANA. Vraiment j'ai beaucoup beaucoup travaillé pour y arriver. Et je m'étais mis en fait en tête de devenir architecte d'intérieur. Et en fait c'était quelque chose, j'ai eu beaucoup de difficultés scolaires, j'ai failli redoubler toutes les années de mon collège, ça se passait vraiment pas très bien. Et du coup, c'était vraiment une espèce de but ultime comme ça qui me faisait rêver, qui m'a permis de maintenir à flot et puis de travailler beaucoup pour y arriver. Et en fait, quand je suis arrivée dans cette école, je m'étais tellement fait une idée merveilleuse, quelque chose d'assez idyllique, que quand je suis arrivée, j'ai un peu pris un coup dans la tête, on va dire. Parce que c'est vraiment... Bah voilà, c'est la prépa, quoi. C'est vraiment très intense, ça demande beaucoup de travail et ça demande surtout une espèce de stabilité psychologique, d'être plutôt sain et bien dans ses pompes pour pouvoir avancer, quoi. Parce que si en plus il y a des problèmes à côté, on n'a pas le temps en fait de s'appuyer là-dessus, qu'il faut voilà, travailler. Et ce qui n'était pas mon cas à l'époque, j'ai eu quelques difficultés au niveau familial, et ce qui fait que c'était vraiment très compliqué pour moi de jongler entre les deux. Et j'en suis venue à un point où je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me plaisait. Enfin, au-delà des difficultés, j'étais même plus capable de les surmonter parce que c'était pas le but d'architecte d'intérieur, me plaisait même plus et c'était plus forcément ça que j'avais envie de faire. Du coup, grosse remise en question et j'en suis venue à un stade où j'ai juste eu envie d'arrêter en fait pour avoir après voilà, quelque chose comme 6 mois où je me suis mise sur pause, je suis revenue chez mes parents, j'ai réfléchi sur ce que je voulais faire et. Voilà, c'était. Je pense que c'est faisable si on est bien dans ses pompes et tout. C'est... Franchement, j'ai pas envie de faire peur non plus. La nana, c'est chouette, mais ça demande un investissement à 100% et j'étais pas capable de le donner à ce moment-là. Donc, voilà.
Ouais, il y a vraiment une. On va dire, il y a un décalage entre ce qu'on pense être le métier. Mmh. On l'idéalise, on imagine que ça va être super bien, mais on se rend pas compte finalement de tout ce que ça engendre, de tout le travail qu'on va devoir fournir certainement et tout l'apprentissage aussi parce qu'on ne devient pas architecte d'intérieur en un coup de baguette magique, je pense que c'est ce que tu as essayé bien de nous expliquer. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur ces 6 mois qui t'ont permis de réfléchir, comment tu t'y es pris toi pour essayer de te réorienter pour le coup?
En fait, je suis quelqu'un qui aime bien contrôler quand même, du coup avant d'arrêter la mana, j'avais déjà regardé un petit peu ce qui existait dans la région. Je pouvais pas partir partout en France, donc déjà ça me limitait ce choix par rapport à ce critère-là de lieu. Il fallait que je reste voilà, dans notre région, Saint-Etienne, l'Ardèche, la Loire, tout ça. Mmh. Et du coup j'ai regardé l'université, parce que je pouvais pas me permettre des écoles privées, donc il y avait pas masse d'options non plus, hein, à part retourner à la fac. J'avais pas envie d'arrêter mes études, donc voilà.
Ouais.
Et donc j'ai regardé la fac de Lyon, la fac de Saint-Etienne, il me semble la fac de Grenoble aussi. Et je suis allée voir les sites, j'ai épluché tous les sites, toutes les licences qui existaient. Et par miracle, je suis tombée sur la licence Lettres et Arts à Saint-Etienne. Au début, je pensais même me réorienter en prépa Lettres, donc vraiment la meuf a mis du temps avant de comprendre que c'était un truc qui ne convenait pas du tout. Mais en fait, on m'avait fait miroiter qu'avec les notes que j'avais réussi à avoir au bac, je pouvais prétendre, même si ce n'était pas directement après le bac, à une prépa littéraire. Du coup, je m'étais dit, j'avais kiffé mon bac L, j'avais vraiment beaucoup apprécié cet aspect littéraire, donc pourquoi pas. L'avantage de la prépa lettres étant qu'on parle à la fois de la littérature mais aussi de la philo, mais aussi d'autres matières qui viennent compléter, tandis qu'une licence de lettres, c'est vraiment que lettres, ce qui me dérangeait un petit peu au début. Mais là, d'avoir une licence lettres et arts, ça me permettait d'allier les deux trucs que j'aimais le plus à l'époque, quoi, vraiment mon bac L et quand même un apport artistique, parce que même si la mana ne m'avait pas plu, j'aimais toujours autant ces matières-là. Et c'est tombé comme ça, un peu comme un miracle. Du coup, j'ai fait les portes ouvertes, j'ai rencontré des élèves qui m'ont expliqué un peu plus les matières, parce que c'est un peu abstrait, les traits, on sait pas forcément quoi ça consiste, c'est un mélange de licences, il y en a pas partout en France, c'est pas très connu, donc voilà, juste histoire d'avoir un peu plus de concret, quoi, je suis allée voir les portes ouvertes.
Et alors, qu'est-ce qu'on t'a dit lors des portes ouvertes?
On m'a montré l'emploi du temps, je crois que j'ai rencontré même des professeurs, mais ça date un petit peu, donc je me rappelle plus trop. Je me rappelle surtout d'échanges en fait, avec des élèves qui m'expliquaient un peu le taux horaire par semaine, au niveau de la charge de travail personnelle, voilà, quelle matière est-ce qu'on avait, en quoi ça consistait, etc. Et voilà, je me souviens être sortie des portes ouvertes vraiment en étant confiante et en me disant « Ok, je vais pas de nulle part et ça a l'air vraiment chouette. J'ai hâte d'être à la rentrée.
Bon. » Et du coup, la rentrée est arrivée. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment ça s'est passé tes débuts dans cette nouvelle licence?
C'est marrant parce que ça n'a rien à voir avec la façon dont j'ai commencé ma licence et la façon dont je l'ai finie, parce qu'au début, je suis vraiment rentrée en mode « Ok, j'ai perdu un an. » Au début, je voyais des choses comme ça. Alors qu'en fait, on perd jamais un an, ça n'existe pas de perdre. On apprend toujours des choses et voilà, je ne regarde pas du tout la mana. Ok, j'ai perdu donc un an, je me mets tout devant, j'apprends de ouf, je veux avoir les meilleures notes, je veux prouver que voilà, je suis intelligente.
Ouais, mais tu sais pourquoi t'es là,
voilà, je suis là pour rattraper le temps perdu et pour avancer. Et du coup, voilà, la meuf tout devant qui essaie pas trop se faire des potes parce que voilà, j'en voyais même pas trop l'utilité.
Tu venais pour les cours, quoi.
Voilà, après je rentrais chez moi et tout. Et je me suis retrouvée au final à créer une association étudiante lettres qui n'existait pas. J'étais la présidente pendant un an, donc vraiment.
Ah ouais.
Je suis partie de la meuf qui est là que pour bosser à vraiment s'investir au niveau associatif et à créer une espèce de. Au final, dans notre classe, dans notre promo, on s'est hyper bien entendu. On est encore potes aujourd'hui, on fait soirée ensemble. Enfin, voilà, on a vraiment créé une bonne ambiance de classe. On a créé cette association-là de toutes pièces qui n'existait pas. Enfin, qui avait existé, mais qu'on a repris en changeant les règles, les membres, etc. Et ça a du coup complètement changé ma vision de la licence. On n'est pas en cours que pour apprendre, mais aussi pour apprendre sur soi, sur les autres, sur le monde autour. Les études, ça fait pas tout. Et du coup, ouais, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de trucs. J'ai rencontré des gens formidables. Donc voilà, du coup, j'ai continué ma licence comme ça. J'ai fait 2 ans qui se sont super bien passés. Peut-être qu'il faudrait que je développe du coup lettres et arts, ce que c'est.
Ouais, j'allais te poser la question, mais c'est vrai que là, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Donc en même temps, je te laisse parler sur ce sujet-là.
Par rapport à la licence, concrètement, si on restait sur le papier, quoi, c'est la moitié d'une licence de lettres modernes et la moitié d'une licence d'art plastique. Mmh. C'est-à-dire que par rapport à l'aspect de lettres modernes, on ne va pas avoir tous les cours de grammaire, littérature médiévale, tous les trucs un peu classiques de la licence, on ne va pas l'avoir, mais on va garder que les matières littéraires, histoire littéraire, littérature, donc c'est par siècle à chaque fois, du 16e, 19e, etc. Mais pas trop tout ce qui est théorique, tout ce qui est voilà, latin, c'était pas obligatoire, grammaire, c'était pas obligatoire, etc. Et de l'autre côté, l'aspect lettres, en fait, on n'avait pas tout ce qui était les cours pratiques de la licence art plastique, on n'en avait pas, mais c'était tout l'aspect théorique, hyper intéressant, donc histoire de la photo, histoire du cinéma, histoire de l'art d'abord, esthétique, qui correspond à philosophie de l'art. Voilà, et en fait, du coup, ils mixent tout ça ensemble et ça donne une nouvelle licence, je crois qu'il y en a genre 3 en France, c'est vraiment très rare.
Ah oui.
Ouais, voilà, c'est une espèce de mélange entre... C'est pas une double licence, ça reste une licence simple, mais en mélangeant deux différentes.
Ok. Ouais. Et du coup, par la suite, t'as continué à t'orienter. Donc, avant d'en arriver là, est-ce qu'on pourrait un petit peu discuter des débouchés à la suite d'une licence lettres et arts? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette licence-là? Quels sont les possibles? Si en poursuite d'études, pas forcément en travail, ou même les deux.
Ouais. Et là où j'allais en venir, c'est que sur le papier, là, ça a l'air vraiment super chouette, et c'était hyper intéressant, vraiment, j'ai appris plein de trucs et tout, c'était passionnant. Les professeurs sont géniaux, même si Saint-Etienne, c'est une petite université, mais du coup, ça fait qu'on était en petite classe, c'était en petit comité, les profs sont proches des élèves, voilà, très agréable, mais du coup, ce que je me suis rendu compte là, en finissant ma licence, parce que du coup, j'ai fait 1 an d'Erasmus l'année dernière, j'ai fait 2 ans à Saint-Etienne, et j'ai fait 1 an à Grenade en Espagne, en Andalousie, pour être précise. Donc c'est génial, mais du coup je me suis rendu compte, là j'ai une licence en lettres et arts et c'est un peu ni fait ni à faire, c'est un peu le problème, parce que du coup je peux pas passer par exemple un master CAPES.
Ah oui, t'as pas accès.
Il manque des matières en fait, du coup, grammaire, latin, tous ces trucs là que j'ai pas eu pendant 3 ans, c'est des matières que je vais devoir passer en concours quand même, si j'avais eu envie de faire professeur
par exemple.
C'est des épreuves là que j'aurais dû bâcher toute seule parce que j'ai pas eu de cours de ça du coup pendant 3 ans. Ce qui est un peu problématique quand même.
Bah oui.
Et d'un autre côté, tous les masters, parce que du coup on peut prétendre à la fois au master lettres et à la fois au master art, le problème c'est que tout ce qui sera des masters art plastique, donc je sais pas, plasticienne par exemple, ou dans l'édition, bah c'est pareil, c'est plein de matières qu'on n'a pas eues non plus. Donc c'est un peu problématique, c'était hyper intéressant, on a touché un peu à tout du coup. Mais dans le concret, par rapport à la poursuite d'études, ben... ça demande un peu d'investissement du coup pour apprendre des choses par nous-mêmes pour pouvoir pallier un peu ces manques qu'on a eu pendant 3 ans quoi.
Ouais.
Ce qui est un peu problématique. Alors du coup, par rapport au master quand même, donc une fois qu'on a fini la licence lettres et arts, on peut faire des masters dans l'édition, des masters pour s'orienter vers les concours pour être professeur, master recherche aussi.
C'est
très intéressant. Enfin, la plupart du coup des gens qui étaient en lettres et arts ont fait ça.
Oui.
Qui sont là-dedans, qui ont voulu continuer là-dedans, ont fait recherche. Là, je parle de ce qui existe sur Saint-Etienne, parce que j'avoue que je me suis même pas renseignée. En fait, je savais personnellement qu'à la suite de ma licence, j'allais pas vouloir faire master. J'avais pas envie de me lancer là-dedans tout de suite. Donc, du coup, j'ai pas forcément cherché, mais de ce que j'ai vu, du coup, c'est principalement soit. Les professeurs insistent vachement sur cette voie-là, hein, des concours pour les écoles, l'ENS, etc. Forcément. Hein. Quand on fait une licence moderne, c'est pour faire prof, forcément. Donc on insiste vachement là-dessus, mais en réalité, il y a plein d'autres débouchés. Et un truc peut-être sur lequel on reviendra, mais c'est qu'il n'y a rien de bouché. Quand on fait une licence, si jamais on veut en faire une autre, si on veut changer de parcours et pas uniquement rester dans « t'as fait lettres, du coup tu deviens prof », c'est tout à fait possible aussi. C'est plus facile comme ça, parce que tout le monde en parle et c'est un peu la voie rêvée. Mais il n'y a pas que ça qui est possible. Le journalisme, on peut y atteindre aussi comme ça. D'autres écoles par rapport aux arts, aux langues, etc. C'est possible aussi. Donc.
Ouais, donc c'est un peu une licence qui ouvre quand même pas mal de portes. On n'est pas forcément bloqué.
Non, non, non.
Ok, ben, tu nous disais du coup que tu étais partie en Erasmus. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi tu as fait ce choix-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Si tu pouvais nous préciser un peu tout ça.
C'est un peu compliqué de parler d'année Erasmus, parce qu'il se passe tellement de choses, enfin, c'est un peu une espèce de parenthèse de vie, un truc qui se repassera jamais, et du coup c'est une petite vie qui se passe dans notre vie, c'est un peu compliqué, mais en gros, donc c'est, du coup j'ai fait les démarches en deuxième année pour partir en troisième année, sachant qu'on peut partir en deuxième, troisième ou même en master, hein, c'est comme on veut, et j'ai décidé de partir à Grenade, en réalité parce qu'à la base je devais partir en Italie, ça s'est pas fait. Et il restait une place là-bas, j'ai fait bah bon, c'est au soleil, j'ai fait LV2 espagnol au bac, donc autant que ça serve. Même si au final, on nous vend du rêve en disant oui, tu as un bac, donc techniquement tu as un LV2 espagnol. La réalité est complètement différente, on n'a clairement pas un niveau B2.
C'est-à-dire
quand je suis arrivée, j'étais capable de demander mon chemin et de discuter rapidement en surface avec les gens. Mais en plus là-bas, c'est un peu comme si on allait à Marseille en France, quoi. C'est un accent qui est hyper particulier, c'est pas... Voilà, il y a des syllabes qu'ils prononcent pas, ils ont un dialecte qui est très du coin, quoi, très local. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, au final ça s'est super bien passé. C'est une ville qui est merveilleuse, ça permet de faire un peu le point parce que voilà, je suis arrivée en deuxième année, fin de deuxième année. C'est mine de rien un peu intense, c'est une licence, mais voilà, si on veut se donner en licence, c'est pas, on se repose pas sur nos lauriers, il y a du travail quand même à fournir. Et quand en plus on était une promo qui se poussé vers le haut comme ça, bah, on travaillait pas mal quand même, il y avait pas mal de rendus et tout. Et du coup je suis arrivée à la fin de cette deuxième année en me disant bah ouais, et maintenant en fait, est-ce que je savais très bien que je voulais pas faire prof, c'était pas du tout mon but de base. En fait, en quittant Mana, je m'étais dit ok, je voudrais travailler dans les musées parce que j'adore l'histoire de l'art, c'était la matière que je préférais en Mana. J'adore ça et...
Bon, il y a un petit chat qui est arrivé mais rien de bien grave. Oui.
Oui, et donc du coup, je m'étais dit que je travaillerais dans les musées. Entre-temps, j'étais vacataire au musée de la mine à Saint-Etienne. Alors, comme ça vend pas du rêve, mais ça m'a permis du coup de me faire une idée sur bah, le monde du musée, un peu comment ça fonctionne. Je m'étais dit déjà que je me suis foirée pour architecte d'intérieur. On va voir maintenant, du coup, on va s'y préparer à l'avance et on va aller sur le terrain pour voir comment ça se passe quand on veut travailler dans les musées pour faire des visites et tout. Parce que voilà, moi je voulais faire guide ou créer des collections, des expositions, ce genre de choses quoi, j'étais partie là-dedans. Et en travaillant à ce musée de la mine, bon c'est pas forcément représentatif de tous les musées en France, ça dépend vachement de par quoi c'est organisé et tout, mais voilà, ça m'a donné un petit peu un ordre d'idée. Et je me suis rendu compte que si le métier en soi est sympa, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte et c'était pas hyper épanouissant. De mon point de vue en tout cas, voilà, je me suis pas vue m'épanouir comme ça 20 ans dans ce métier là. Du coup je me suis dit ok, remise en question encore une fois,
c'est
qu'est-ce que je veux faire du coup. Et bon, j'y reviendrai aussi, mais du coup ça me sert de leçon par rapport à vouloir voir les choses sur le long terme et me focaliser sur un seul métier spécifique, ça marche pas comme ça la vie. Bref, et donc du coup j'ai eu besoin de cette année un petit peu d'Erasmus pour me poser seule, loin de tout, de mes responsabilités de ce métier là et de, voilà, de ce qui se passe en France, pour un peu me poser face à moi-même et me demander ok, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui est important pour toi, dans quoi est-ce que tu te vois dans 5 ans max.
C'est ça.
Et c'est là où j'ai réalisé que du coup un master c'était pas pensable pour moi, parce que ouais, j'étais pas prête, je me sentais pas la maturité de faire recherche, genre de créer un mémoire et tout, non, laisse tomber. Et entre temps, depuis la Mana, je m'étais vachement renseignée sur le développement personnel, voilà, plutôt l'aspect psychologique finalement, comment fonctionne le cerveau humain, les émotions, mettre des mots sur ce qui nous tracasse, etc. Comme j'étais passée par là en Mana, une espèce de phase comme ça pendant 6 mois où j'étais toute seule et bon, c'était pas le top niveau forme mentale, bah du coup ça m'avait vachement intéressée, j'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus, des documentaires, des podcasts aussi. Et du coup je me suis dit bah pour l'instant c'est ça qui me fait vibrer vraiment, j'adore ça, je pourrais écouter des podcasts là-dessus pendant des heures, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai le temps, je suis boursière, je peux travailler à côté, je sais que j'ai l'autodiscipline nécessaire pour pouvoir travailler à côté de mes études et donc pas peser trop sur mes parents. Alors pourquoi pas recommencer une licence, j'en ai envie, je me sens la motivation, j'ai mon temps, j'ai l'argent pour l'instant, donc ok, go là-dessus.
Pourquoi pas.
Et du coup, bah, d'où m'est venue l'idée de faire une licence en psycho, parce que du coup, en ce moment, je suis à fond dans l'art-thérapie. Ça me passionne, j'ai suivi des comment on appelle ça,
des stages, des formations,
plus des moments de groupe où on fait la thérapie ensemble. J'ai lu des bouquins là-dessus et tout. Et vraiment, ça me fait vibrer. Là, pour le coup, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui me touche. On est encore dans l'art, on est encore dans des choses finalement qui me plaisent depuis le début, mais voilà, ça a fait son chemin et ça se modifie au fur et à mesure. Et tout ce que j'ai fait auparavant vient d'enrichir forcément le point de vue que j'ai aujourd'hui. Et j'en suis à un stade où je me dis, franchement, là, j'ai envie de comprendre le cerveau humain, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, et surtout, j'ai envie d'aider les gens à utiliser autre chose que des mots pour se trouver et pour... faire vraiment des choses qui le font vibrer. Donc utiliser l'art pas comme quelque chose qu'on admire, quelque chose un peu de distance, ah mais je ne comprends pas ce tableau, ou ah mais ça me fait rien, mais plus dire, en fait, utiliser ces médiums-là artistiques pour faire ressurgir un peu des trucs qu'on a à l'intérieur, des problèmes qui datent de longtemps ou des problèmes récents, et on peut utiliser le théâtre, la peinture, la poterie, enfin il y a la musique, la thérapie c'est très large en réalité, et donc du coup voilà, arriver à allier à la fois l'aspect thérapeutique de la psychologie et des médiums artistiques pour venir compléter tout ça, quoi.
Donc au bout du compte, tes deux licences te permettraient finalement d'arriver à ce statut-là de... Comment on appelle ça, du coup, les personnes qui font de l'art-thérapie? Il y a un nom spécifique.
Art-thérapeute.
Peut-être.
C'est un peu compliqué parce qu'en France, ça reste quelque chose de très nouveau.
Oui, c'est vrai.
On a 50 ans de retard par rapport à d'autres pays qui sont vachement plus... même au niveau des mœurs, ou qui trouvent ça normal et qui trouvent pas ça chelou, comme un peu en France, et c'est pas encore forcément reconnu par l'État. C'est un peu compliqué pour trouver des formations qui soient reconnues par l'État et où du coup, qui permettent d'avoir une certaine légitimité dans le métier, parce que les art-thérapeutes sont un peu vus comme des charlatans par rapport à des psychologues classiques. Forcément, oui, ils ont pas un doctorat en psychologie, il n'y en a pas besoin pour faire une formation d'art-thérapeute. Il suffit de passer 1-2 ans en école privée, principalement, même s'il y a d'autres moyens. Et à la fin, on a un diplôme et on peut faire un thérapeute comme ça, quoi. Donc, oui, ça demande de la maturité, il faut venir avec un book par rapport à nos propres créations artistiques. Mais après, en soi, il n'y a pas besoin d'avoir une licence psychologie. Moi, j'ai décidé de l'avoir parce que je trouve ça important de savoir de quoi on parle. Je veux dire, je pourrais travailler en clinique avec des personnes qui souffrent de schizophrénie, de maladies lourdes comme ça. J'ai pas envie d'arriver comme ça et d'avoir aucune connaissance sur les troubles qu'ils ont et pouvoir les aider un maximum, être encore plus proche d'eux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une licence de psycho, mais c'est pas nécessaire pour faire art thérapeute, ce qui est un peu bizarre. Mais je me suis un peu égarée, je crois. du coup, par rapport à Erasmus, bref, c'était un an à Grenade où du coup j'étais principalement... J'ai eu très peu cours, on va pas se mentir, une licence Erasmus, enfin une année Erasmus, on n'est pas... accablé de travail, c'est pas le but. Le but, c'est surtout de se confronter à une nouvelle culture, d'apprendre une nouvelle langue, de rencontrer de nouvelles personnes aussi, parce que mine de rien, on a déjà un groupe Erasmus qui est hyper riche, parce que c'est des gens qui viennent de partout. Et en plus, de rencontrer des personnes pas forcément qui pourraient venir de Grenade d'ailleurs et tout. Et c'est principalement ça finalement, c'est se rencontrer soi-même et rencontrer d'autres personnes. Et là, pour le coup, c'est hyper riche. C'est difficile à mettre en mots, mais. On le fait comme on veut en fait. Je sais qu'on a un peu l'image, enfin moi en tout cas c'est l'image que j'avais avant de partir, vraiment d'une année où on fait soirée tout le temps, on rencontre beaucoup de gens, vraiment un truc d'extraverti, et introverti comme j'étais, ça me faisait un peu peur. Mais au final on vit vraiment l'Erasmus comme on veut en fait. Si on veut pas faire toutes les soirées d'intégration, si on veut pas faire toutes les soirées Erasmus où il y a je sais pas combien de personnes, c'est pas nécessaire pour s'adapter et pour se sentir intégré dans une ville en fait. J'ai trouvé mes propres moyens de rencontrer des gens en plus petits comités. J'ai fait genre une soirée Erasmus et ça s'est arrêté là, juste pour le dire de l'avoir fait et de sortir de ma zone de confort, mais je me suis pas forcée. Mon année s'est principalement basée sur rencontrer des gens autour d'un café, et on était peut-être 5 à chaque fois, aller à des cours de pilates, des cours de méditation, me balader tous les dimanches, et voilà.
Prendre du temps aussi. Prendre du temps pour toi.
Prendre du temps loin des responsabilités et... prendre la vie calmement, et un an un peu de vacances finalement. C'était plus bon, j'ai eu des partiels, il y avait cours la semaine, bon, soit, mais c'est pas ça que je vais retenir de mon année finale.
Ouais, je vois. Du coup, tout à l'heure tu nous disais aussi que t'avais fait c'était un stage du coup au musée à Saint-Étienne.
J'étais locataire.
T'étais carrément locataire.
Ils m'ont proposé même un CDI, enfin.
Et du coup, est-ce que toi, tu préconiserais de soit d'être vacataire, soit de faire des stages pour d'abord se forger une idée du métier avant de se lancer dans les études. Qu'est-ce que t'en penses, du coup, pour avoir testé cette méthode-là? Est-ce que tu referais différemment en sachant ça, ou est-ce que tu penses que c'est pas forcément utile?
Pour moi, c'est plutôt facile, entre guillemets, parce que j'ai juste eu à suivre les annonces de la ville et je suis tombée sur ce système-là de vacataire. C'est un job étudiant, c'est plutôt pratique ça, par rapport au musée, mais dans certains métiers, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, s'il y a possibilité de faire des stages, de rentrer dans le concret par rapport au métier, je trouve ça génial. Mais je sais que c'est pas aussi simple que ce que ça a pu être pour moi. Je sais pas. J'ai un peu tendance à être un peu contrôle freak et donc à vouloir me rassurer tout le temps, genre oui, c'est bon, je fais la bonne décision, je vais dans le bon endroit et tout. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien d'y aller et de voir par mes propres yeux à quoi ça ressemble de l'intérieur. Après, je pense que ça dépend pas mal des personnes et des métiers surtout qui les intéressent. Je pense par exemple, je sais pas, genre à prof. C'est un peu compliqué de tester le métier de prof avant.
C'est vrai. Avant de connaître quelqu'un, c'est vrai que ça devient vite difficile de pouvoir.
De suivre des cours, pourquoi pas, de demander peut-être à des maîtresses d'école ou quoi, de suivre une journée la classe comme ça à la limite, mais il faut avoir des contacts.
C'est ça.
C'est un peu compliqué. Donc moi j'ai eu cette chance-là, mais je sais que c'est pas forcément aussi simple pour les autres.
Ouais, après, faut voir si on a la chance ou pas de pouvoir.
Si l'école le propose aussi, parce que c'est pareil, moi dans ma licence, aucun stage n'était obligatoire, ce que je trouve fou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui vont être formés à être prof, ils ont jamais suivi un cours de leur vie.
Enfin, en tant qu'étudiant, pas en tant que prof,
parce que je trouve ça incroyable. Il n'y a aucune formation pour savoir gérer une classe, pour savoir comment on prépare un cours et tout, enfin, rien. C'est des matières ok sur le fond, mais sur la forme.
Ouais, on n'est pas... enfin, c'est pas fou, une formation, du coup, qui est dédiée, finalement, mais qui forme pas, quelque part.
Ouais, c'est pas la seule. En psycho, c'est pareil. Hein. Là, pour ma licence de psycho, bon, je suis à distance, donc je pourrais reparler cet aspect-là aussi. Je vais pas en cours, c'est sur Internet. Okay. Mais même pour la licence en continu, en présentiel, eux, ils ont pas de stage non plus obligatoire.
D'accord.
En tant que psy, ce qui est encore plus grave, finalement. Enfin, déjà, prof, c'est important, mais... Ils vont être lancés comme ça dans le monde du travail à devoir diagnostiquer et accompagner des gens alors qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie et ils n'ont jamais vu quelqu'un le faire non plus.
Ah oui,
ils ne sont fait jamais eux-mêmes diagnostiqués, ce que je trouve encore plus fou. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais suivi forcément, enfin c'est pas obligatoire en tout cas se faire suivre en thérapie déjà en tant que thérapeute.
C'est que les psychanalystes, il me semble hein, d'ailleurs, c'est que cet aspect-là où les psychanalystes doivent avoir fait une psychanalyse pour pouvoir devenir psychanalyste. Mais
et c'est même pas obligatoire. C'est recommandé forcément, ça saute aux yeux, mais par rapport à l'organisation française, en tout cas de nos licences, c'est pas obligatoire.
Bah, et là, il faut se poser 2-3 questions.
C'est ça, à méditer.
Je reviens aussi légèrement sur l'Erasmus. Comment tu t'es informée, toi, pour partir? Comment ça s'est passé?
C'est un peu compliqué, hein. faut vraiment vouloir partir parce que l'administration de la fac étant ce qu'elle est, hein, c'est pas un mythe, c'est réel. Vraiment, l'administration, c'est... Voilà, c'est un peu à nous de nous débrouiller, à chercher les informations, à aller demander aux gens quand ça se passe. Ouais. Moi, j'ai demandé à mes profs, ils sont allés eux-mêmes demander à d'autres personnes parce qu'ils étaient au courant de rien, et qui m'ont dit « Ah, il y a des réunions à tel amphi tel jour ». Et en fait, au début, donc voilà, on a des réunions globales en amphi avec toutes les licences qui veulent partir en Erasmus. Mmh. Et ensuite, on a en plus petits groupes des plus petites réunions qui parlent pour la licence lettres, par exemple, comment ça va se passer. Par rapport aux équivalences de matières, parce que forcément lettres R ça n'existe pas à Grenade, donc comment trouver des matières qui pourraient correspondre à une troisième année de lettres R tout en prenant en compte le fait qu'on parle pas la langue et qu'on n'allait pas avoir un même niveau là-bas. Donc voilà, c'est pas mal de réunions, 3 ou 4 je dirais, 2 grosses en amphi avec tout le monde pour concrètement d'un point de vue administratif comment ça se passe, et des plus petites réunions avec notre professeur référent Erasmus pour qu'il nous explique par rapport à plutôt nos matières littéraires, comment ça va se passer. Et lui, il était plutôt gentil, du coup, il nous a bien expliqué par rapport au logement, par rapport aux sous, comment ça se passe.
Ouais, parce que c'est soit on tombe bien, soit on tombe pas bien, parce que c'est vrai qu'il y a tout un aspect...
Hein, donc, oui. S'ils sont motivés, s'ils n'ont pas été formés d'office, s'ils font ça vraiment par plaisir et pour nous aider, ils vont faire ça bien. Mais c'est pas forcément le cas, quoi. En plus, nous, on a une petite licence, donc ils me connaissaient. C'est quand même des circonstances plutôt sympas par rapport à d'autres.
Bah, merci déjà pour cet aspect-là, même si le podcast a prévu de faire un hors-série concernant les Erasmus. Là, tu nous donnais une info hyper précieuse quelque part. Tu nous disais que tu faisais ta licence de psycho à distance. Alors, est-ce que tu peux nous en parler?
euh, Alors, c'est pas le CNED, comme on peut confondre parfois, c'est vraiment à Aix-en-Provence, ils proposent une licence en présentiel et à distance. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une plateforme de cours et les professeurs soit envoient leurs cours d'un coup, soit au fur et à mesure, via différents médias. Hein. Il y en a qui utilisent que le format PDF, il y en a qui enregistrent leurs cours en CM et en TD. Il y en a qui envoient des diaporamas de ce qu'ils ont expliqué en cours et du coup, ils complètent avec quelques notes à côté. Voilà, c'est libre. Et ça correspond exactement à une licence en présentiel, sauf que voilà, moi, je me sentais pas, j'avais déjà fait une licence en lettres et arts, je me sentais pas de retourner en L1 en cours, en amphi. Puis après, il faut se connaître. Moi, je sais très bien que je peux travailler en autonomie, je sais chercher les informations seule, j'adore travailler en bibliothèque et chercher des informations dans des bouquins à côté et tout. Donc, ça me parlait plus que de retourner dans un système traditionnel de la fac et d'apprendre les cours. Et en plus, ça m'arrêtait de rester sur Saint-Etienne et de travailler encore au musée, parce que du coup, ils m'ont repris après mon année Erasmus. Donc là, j'y travaille encore aujourd'hui. Et donc du coup, concrètement, on n'y va que pour les partiels en fin de semestre, mais sinon tout le reste, on a accès à des forums quand même, on n'est pas tout seul. Nous en plus on a des groupes Facebook et Messenger sur que les étudiants SFAD, ça s'appelle donc service FCP à distance, service formation à distance, je pense que c'est. Donc je me sens pas toute seule, mais voilà, les cours c'est à moi de me dire ok, tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça, je travaille de telle heure à telle heure, ah non aujourd'hui je travaille au musée, donc j'adapte aussi par rapport à mon emploi du temps.
Et c'est toi qui t'organises par rapport à ton rythme de travail,
selon,
c'est super.
S'ils nous ont donné le cours en entier, voir comment est-ce que je le découpe moi. Le but c'est que le 16 décembre, j'arrive à Aix-en-Provence et je fasse les partiels avec les personnes qui ont fait la formation en présentiel, et je fais le même partiel qu'eux, il faut que juste, ils me demandent juste qu'arriver le 16 décembre, j'ai fait tous mes cours et que je sois prête à passer le partiel.
C'est ça.
Après, il n'y a pas de vérification, on n'a pas de contrôle, on ne doit pas renvoyer, comme je pensais au début, des exposés ou des rendus. C'est
comme le CNED qui demande sur une plateforme en ligne à ce qu'on dépose.
Non, là, pas du tout, c'est vraiment juste tu viens pour les partiels et voilà. Bonjour, au revoir, c'est fini.
C'est pas mal comme idée, mais est-ce que tu penses que n'importe qui pourrait faire ça? Parce que c'est vrai que toi, t'as déjà un peu d'expérience dans le monde des études, donc tu sais comment tu travailles en post-bac, ce qui est complètement différent de ce qu'on peut avoir dans le secondaire, hein. On n'est pas du tout sur le même niveau de travail. Alors, est-ce que tu penses que quelqu'un qui serait au niveau bac pourrait prétendre à faire une licence à distance, ou est-ce que ça serait un petit peu, excusez-moi des termes, mais casse-gueule, quoi, hein?
Encore une fois, ça dépend vachement des gens, parce qu'il faut se connaître, en fait. Moi, je sais que même... Enfin, ça demande de la maturité, déjà, de base. Donc, je sais pas si à 18, 19 ans, on a la maturité suffisante pour se dire « Ok, aujourd'hui, je travaille », alors qu'il y a personne qui va venir nous dire « Ah, t'as pas bossé tel cours ou quoi ?»
Faut se lever le matin, il faut travailler.
Il faut travailler, faut faire un calendrier pour savoir où est-ce qu'on est par rapport aux matières. Moi-même, étant plutôt organisée et pouvant travailler en autonomie, je sais pas si à 18, 19 ans, j'aurais eu la maturité pour faire ce travail-là. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Et puis ensuite, oui, faut se connaître par rapport à... Nos capacités de travail en autonomie et chercher les informations par soi-même et être capable de bosser tout seul, parce que là pour le coup c'est vrai qu'on n'a pas de prof. Alors oui, on a leur email, hein, si on a des questions on peut leur envoyer des mails, mais on voit personne pendant un semestre, donc faut se poser les questions par rapport à notre travail, si on a la motivation, la maturité et les capacités, je dirais, pour travailler en autonomie.
C'est vrai. Du coup, je me demandais, toi, quand t'es sortie du bac, comment t'as fait pour trouver les informations pour ta poursuite d'études, parce que c'est quand même chaque année la même chose, hein, des milliers de lycéens cherchent ce qu'ils ont envie de faire, et c'est difficile de choper les bonnes infos. Alors toi, comment tu t'y es pris?
C'est clair, c'est super compliqué. Bon, l'avantage, c'est que comme je savais depuis la 6e que je voulais faire, mais c'est très rare, personne sait depuis la 6e ce qu'il veut faire après le bac.
C'est vrai.
Et c'est hyper stressant comme question. Bon, qu'est-ce que tu veux faire après? Je n'en sais rien.
Oui.
Vraiment, j'en sais rien. Donc il y a soit le choix guidé par les parents. Les parents veulent que tu fasses médecine, donc tu vas faire médecine. Je dis médecine, ça pourrait être autre chose.
Oui.
Ou alors je suis forte en maths, donc je vais faire une licence de maths. J'en sais rien, du coup je vais aller dans un truc facile, la fac. On a l'impression que c'est un peu...
C'est un peu plus facile.
Mais quand on a une idée précise en tête comme moi, ou qui savait qu'il voulait faire architecte d'intérieur, pour trouver les informations c'est compliqué, surtout la mana, on n'en parle pas du tout. J'étais allée au CIO de ma petite ville, donc voilà, c'était pas non plus une grande infrastructure, mais personne n'est capable de me renseigner, quoi. Ils regardaient les sites internet que je regardais moi toute seule, donc, ONICEP, l'étudiant, voilà. Mais ils en savaient pas plus que moi, donc ils me proposaient des écoles privées, en mode, ouais. Bon, bah voilà, faudra que tu fasses un chèque, en fait, et tu seras prise.
Ouais.
Oui, non, mais si on n'a pas les sous. Ah bah si on n'a pas les sous, c'est pas possible.
Bah si, ou tu fais
fait,
un crédit.
Si, c'est possible. En fait, si c'est possible, il faut avoir un super dossier scolaire.
Oui.
Mais c'est possible, il faut se renseigner. Mais du coup, voilà, bah faut éplucher les sites internet. Ça, encore une fois, ça demande de la maturité parce que on est tout seul. Et du coup, de se prendre par la main pour aller chercher les informations sur des trucs qu'on n'est même pas sûr de vouloir faire. Je me rappelle à quel point ça avait été stressant, ça, plus le bac en plus. Je suis contente d'avoir passé cette période-là.
C'est une grosse année, la terminale.
Ouais, c'est clair. Et du coup, bah voilà, à force de chercher, ce que je conseillerais surtout, c'est faire les portes ouvertes.
Ouais.
C'est de regarder les portes ouvertes, parce que d'une école à une autre, ça peut être très différent. Hein, je vois la Mana de Lyon par rapport à la Mana de Saint-Thé, ça n'a rien à voir. Au niveau des cours, au niveau de la mentalité, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc voilà, un truc que je conseillerais à fond, c'est faire les portes ouvertes, vraiment. Quitte à prendre une journée, même si c'est pendant la journée de cours, de prendre une journée, prendre le train, prendre la voiture. Je sais que ça demande des sous, ça demande du temps, les parents sont pas forcément disponibles, donc peut-être qu'il faudra le faire tout seul.
Ouais.
Mais voilà, c'est se rendre directement sur place pour se faire une idée, parler aux étudiants qui sont en train de faire la formation, parler peut-être à des professeurs s'ils sont présents, voir un peu bah, par rapport à la Mana, du coup, les projets qu'ils sont en train de faire pendant l'année, ça donne une bonne idée des matières qu'il y a et tout. Et là, en principe, ça part direct. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, ça m'a parlé directement, celle de Saint-Thé. Vraiment, c'était chouette. J'ai rencontré certains professeurs qui avaient l'air hyper ouverts, hyper sympas. Ce qui était le cas, ils étaient gentils, juste. Ils en demandaient beaucoup, mais ils étaient gentils. Donc, ouais, voilà, porte ouverte et éplucher tous les sites internet et tous les forums. J'ai passé un temps fou, hein, mais il n'y a pas 36 000 solutions. Enfin, à part le CGO qui en savait. Enfin, en tout cas, pour mon cas, qui en savait pas beaucoup, il n'y a pas trop d'autres options en fait.
C'est vrai. Je suis plutôt d'accord. bah, pour le petit mot de la fin, est-ce que je pourrais te demander un conseil pour ceux qui nous écoutent, quelque chose que toi, tu aurais évalué dans tes études et qui te semblerait important de transmettre ?
Alors, c'est une question qui m'a demandé de réfléchir. Donc, en y réfléchissant, donc déjà, faire la porte ouverte, on en a déjà parlé. Et la deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est aujourd'hui, il faut arrêter de vouloir chercher un métier dans qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Mais plutôt, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer en termes d'études ? Dans quoi est-ce que tu as envie d'aller ? Est-ce que ça te fait vibrer d'aller en licence, d'aller dans une école, même qui coûte cher ? Bah, est-ce que tu penses que tu aurais les moyens de travailler à côté pour pouvoir te la permettre ? Mais vraiment chercher sur le court terme, pour le coup, ça peut paraître un peu paradoxal de penser comme ça alors qu'on prépare pour un métier, mais penser vraiment plutôt sur les 5 prochaines années, les 3 prochaines années, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui, et voilà, arrêter de vouloir voir sur le long terme, parce qu'en plus aujourd'hui dans le monde du travail, les recruteurs ils cherchent des profils variés qui ont fait différentes choses, qui viennent se compléter forcément. Hein. Moi, toutes les formations que j'ai faites, à aucun moment je regrette et à aucun moment aujourd'hui je me dis que j'ai perdu du temps avec ma licence ou ma Mana. Ça m'a apporté des choses, des connaissances, de la maturité que j'aurais pas été capable si directement après le bac j'étais partie en licence de psychologie par exemple.
Ouais. Merci beaucoup du coup Noémie de nous avoir partagé ton expérience. J'espère aussi et puis je te souhaite une bonne journée.
Merci.
Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Noémie de nous avoir partagé son expérience. Je mettrai son mail en barre d'infos si vous avez envie de lui poser des questions. Nous n'en avons pas nécessairement parlé lors de l'interview, mais la Mana mise à niveau en art appliqué n'existe plus actuellement et a été remplacée par le DNMAD, DNMAD, pour ceux que ça intéresse. Merci d'avoir écouté Hope, en espérant que cette expérience enrichisse votre vie et vous aide à ouvrir le champ des possibles. N'hésitez pas à noter notre podcast sur SoundCloud et laisser des commentaires. À lundi pour un nouvel épisode.